France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les attaques de drones ce week-end sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite ont déjà fait d'importants dégâts et ont d'importantes conséquences. Les prix du baril américain et du baril du Brent de la mer du Nord ont grimpé hier soir de plus de 10%. Et ce, alors que Donald Trump avait annoncé dans la soirée avoir autorisé l'utilisation de réserves stratégiques américaines pour limiter l'impact de ces événements sur les prix du pétrole. Hier, Riyad a commencé à travailler au redémarrage des équipements, mais la production du pétrole a déjà diminué de moitié. Au sujet des attaques par ailleurs, si les rebelles yéménites Houthis les revendiquent, Washington les impute à l'allié des Houthis, à savoir l'Iran. Les résultats ne seront connus que demain mardi, mais deux candidats à la présidentielle tunisienne disent déjà publiquement s'être qualifiés pour le second tour. Deux candidats anti-système à chaque fois, l'universitaire indépendant Kais Saïd et le patron Nabil Karoui qui est actuellement en prison accusé de blanchiment et de fraude fiscale, patron de médias. Moins d'un Tunisien sur deux s'est déplacé hier pour aller voter. La présidentielle en Algérie, cette fois, elle est encore loin d'être organisée, mais une date a été fixée hier. Ce sera le 12 décembre prochain, selon le président par intérim, qui suit les indications du général et homme fort du pays, Gaïd Salah. Les manifestants mobilisés depuis des mois maintenant dans la rue s'étaient opposés à ce que le scrutin soit organisé si vite. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Aujourd'hui, lundi, ce sont les professions libérales qui seront dans la rue, avocats, médecins, infirmières, mais aussi pilotes de ligne, stewards, hôtesses de l'air. Tous veulent défendre leurs régimes spéciaux. Et puis une autre grève aujourd'hui, celle des agents de la Direction générale des finances publiques. Ils protestent contre les nouvelles suppressions de postes annoncées à Bercy, 5800 postes supprimés d'ici 2022.
Chaque jour sur France Culture à midi, la grande table, Olivia Gesbert.
Nos invités, un cinéaste cinéphile et un critique cinéma pas content. Trop lisse, trop neutre, le cinéma c'était mieux avant. Pour Éric Nehoff, il y a malaise à tous les étages, du financement à l'écran, des acteurs à la critique. Le vrai cinéphile est toujours curieux, semble lui répondre Nicolas Boukrieff. Pour preuve, son nouveau film, 3 jours et 1 vie, adapté du polar de Pierre Lemaître. Une curiosité coupable pour le coup.
La grande table, ce lundi à midi et sur France Culture.
Et pour l'instant, il est 6h03 sur France Culture, l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin, à la prise de son, Alain Joubert et notre invité du jour pour commencer la semaine est Justine Beau, qui publie en cette rentrée littéraire son 5e roman. Un roman social avec une héroïne romanesque, mi-Rosetta, mi-Miss Meursault, une Cosette employée à mi-temps chez McDonald's, un revolver dans la poche et qu'on rencontre le jour de la mort de son père, quand tout le pays est en fête. Avoir 20 ans dans la misère de Cerbère. Cerbère, petit bled dans les Pyrénées orientales. Le temps d'un roman, le temps d'une semaine dans la vie d'une héroïne qui a pour prénom Nour, la lumière en arabe. Onanisme, le roman de Justine Beau, est édité par Grasset.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
L'additionnel est terminé. Victoire ! C'est le titre ! La France est championne du monde ! Pour la deuxième fois de son histoire, on a attendu 20 ans ! Et on est encore champion du monde ! Que c'est exquis, que c'est bon !
C'était l'année dernière, la France remportait la Coupe du Monde 20 ans après 98 donc. Et c'est comme ça que commence d'ailleurs le dernier roman de Justine Beau, le lendemain de cette victoire. Onanisme, extrait. Cette nuit encore, en fête la victoire. La fierté n'en finit pas de se déverser dans les corps. Ils dansent et ils hurlent et aussi. Minuit passé, j'ai 20 ans. Minuit passé, Saïd est mort hier. et la veille, le pays a gagné. Sur la place centrale de Cerbère, la foule se rassemble en une seule matière. Les hommes s'atomisent les uns les autres. Je voudrais faire sortir mes yeux de leurs orbites pour qu'ils trouvent de quoi s'accrocher, à qui parler, qui suivre. Mais mes yeux, reclus en moi-même, comme dans un grenier humide, ne voient rien ni personne. Je marche sans savoir où. Dans la panique, j'ai planqué Manurin dans la poche arrière de mon jean. Si je m'en saisis et que je tire, alors la foule, semblable aux paupières de Saïd, se refermera sur elle-même et je la trouverai avec calme. Bonjour Justine Beau.
Bonjour.
C'est Nour qui parle. Elle a 20 ans, le jour de la victoire donc de l'équipe de France, c'était en 2018. C'est aussi le jour de la mort de son père, Saïd.
Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, le roman commence au lendemain de la victoire. Donc c'est aussi un moment de gueule de bois, d'hébétude, à la fois de joie et en même temps un moment de flottement. Et cette jeune fille, ou femme, ou personne, je ne sais pas comment on peut la qualifier, en tout cas, qui s'appelle Nour, elle prend son service au McDonald's et quand elle rentre chez elle, elle découvre que son père, Saïd, vient de mourir. Et donc, grande liesse qu'elle a sentie la veille liée à la victoire de la Coupe du Monde, succède la tristesse immédiate causée par la mort de son père. Et ça me fait très plaisir en fait que vous ayez commencé avec cet extrait de la Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours en tête en fait la voix de la foule qui chante la Marseillaise quand je pense au début de ce roman. Et c'est vraiment ça en fait qui a suscité l'écriture du livre. Au-delà du fait que le roman s'ouvre comme ça, c'est vraiment ce son, en fait ce bruit qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre ou que ce livre a surgi.
Je suppose que c'est pas un hasard si votre personnage, l'héroïne de votre roman, puisque c'est aussi la narratrice d'une certaine manière, soit née en 1998, c'est-à-dire l'année d'une autre victoire de la France dans une Coupe du Monde de foot.
C'est absolument pas un hasard et en fait ce qui était très fort au moment de cette Coupe du Monde, moi qui ne suis absolument pas fan de foot et chez qui le foot a toujours suscité plutôt de l'interrogation, pour le dire poliment. J'ai vécu cette Coupe du Monde en étant complètement sidérée par ce qui se passait autour de moi. Donc, comme un peu tout le monde, je me suis prise au jeu d'aller voir les matchs avec mes amis. Et c'est un moment où on a beaucoup, beaucoup discuté, beaucoup débattu.
Pour la deuxième coupe, hein, parce qu'en 98, vous étiez trop jeune. Hein, vous
oui, mais j'avais 10 ans. Et donc, j'avais 10 ans, puisque je viens d'avoir 30 ans. Donc, en fait, le 98, c'était l'année de mes 10 ans ou de mes...
Oui, 9 ans.
Bon, je ne sais pas compter, ça, c'est pour ça que je suis devenue écrivain. et en tout cas, je m'en rappelais. Et justement, c'était ça qui était intéressant, c'était de discuter avec tous mes amis qui avait à peu près le même âge à l'époque, et de se souvenir de 98 comme d'un moment qui nous avait été aussi présenté, qui avait été sculpté comme un moment de grande victoire et de grande communion. C'était aussi un moment où on écoutait beaucoup de Rai. Vous savez, c'était la sortie d'Un, deux, trois soleils. Je crois que le disque est sorti l'année d'après. Et donc, il y avait eu déjà, en fait, en 98, nous, on était trop jeunes pour le penser comme ça, mais avec le recul, je crois qu'on le pense. En tout cas, les gens autour de moi partagent cette sensation. On était trop jeunes pour le penser comme quelque chose de politique qui s'inscrivait dans une fantasmagorie aussi des identités qui sont en communion les unes avec les autres.
En communion.
Oui, sauf que quand on regarde l'histoire à rebours, on se rend compte que c'était une jolie construction. Mais c'était
et que tout
aussi
le monde s'en rappelait l'année dernière, parce que c'était pas la même chose la fête, la victoire de 2018 par rapport à celle de 1998.
Bah justement, c'est pour ça aussi que le roman commence comme ça, et c'est vraiment, c'est-à-dire que littéralement, j'ai commencé à écrire le livre entre la demi-finale et la finale, et c'était vraiment le sentiment de malaise, la sensation de malaise que j'avais à chaque pas en marchant dans Paris, entre ces deux moments, qui a fait naître cette écriture-là et la voix de Nour. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette volonté de se rattacher à cette grandeur de 98 et à ce symbole très fort que constitue le football dans notre univers politique, historique, etc. Et en même temps, malgré la liesse, malgré la joie, il y avait quelque chose de d'électrique. On ressentait un malaise. Il y avait aussi l'évocation d'une menace sécuritaire. Et puis il y avait déjà une ébullition politique qui était en germe à ce moment-là, sur laquelle on mettait pas vraiment des mots. Et donc ça créait une atmosphère très survoltée et beaucoup de bruit. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans le livre, en fait. Et c'est un personnage qui, effectivement, est né en 98, mais comme elle est née en 98, elle s'en souvient pas. Donc, elle est née dans un rêve déjà déchu. Et elle voit advenir une victoire qui est amère avant même d'être célébrée.
Et ce n'est pas un hasard si son père, Saïd, est un ancien footballeur.
Mais, décidément, il y a très peu de hasard possible. Ouais,
qui n'a jamais réussi dans sa carrière footballistique.
Qui lui aussi est dans une forme de déchéance. En l'occurrence, le roman commence juste après sa mort. Donc la déchéance ultime. Mais c'est effectivement un personnage et qui, en plus de ça, donc est né à Mers El Kébir d'un père... qui lui-même était français, qui faisait partie du Racing Club d'Alger, donc une équipe de football, voilà, un club de football assez prestigieux, en tout cas à l'époque. Et donc, lui a voulu faire comme son père, seulement il n'avait pas le talent, ou en tout cas, ça n'est pas arrivé. Et donc, Nour a vécu aussi dans une image du football qui était à la fois une image... une idolâtrie en fait par rapport au football et aux figures du football, et en même temps avec la perception de la déchéance de son père qui était très claire.
Pourquoi cette histoire de Nour, puisqu'on va vivre avec elle une semaine particulière, elle a 20 ans, elle perd son père, mm-hmm. et tout autour tout le monde fait la fête, pourquoi avoir inscrit cette histoire dans ce territoire, c'est-à-dire un territoire oublié, hein, c'est-à-dire on est avec cette France qu'on voit rarement, qu'on entend rarement, on est à Cerbère, mais est-ce qu'on peut même préciser dans les quartiers pauvres de Cerbère ?
Oui, alors en fait, Cerbère d'abord, le lieu est arrivé comme ça, il a surgi aussi, parce qu'au départ, tout est parti d'une scène qui était une scène qui se déroulait sur la plage, et c'est le moment en fait où Nour trouve le revolver qui va l'accompagner durant ses 7 jours. Et qui va ouvrir une brèche dans sa vie. Et en fait, j'avais pas de lieu. J'avais simplement des images d'un lieu, donc des éléments en tête. Et je voulais un bunker sur la Méditerranée. Et donc, en faisant des recherches, je me suis très vite rendu compte que Cerbère était l'une des extrémités du mur du sud. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé ce lieu de Cerbère, que je connaissais pas vraiment, enfin dont je connaissais vaguement l'existence, mais
vous êtes allé sur place?
Non, justement, et ça a été un choix vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé à me plonger dans la géographie des lieux. Les lieux sont en très grande partie fantasmés puisqu'il n'y a pas de McDonald's à cet endroit-là. Il y a bien cette départementale, et donc j'ai imaginé voilà un cube, un McDonald's,
un McDrive comme on dit.
Exactement. Donc Nour passe la journée dans son box à regarder le parking d'eau à la mer. Donc les lieux sont un peu fantasmés, mais en revanche j'ai complètement respecté la géographie et le caractère accidenté des lieux. Toutes ces ruelles qui sont arc-boutées sur la mer. Et effectivement, Nour, elle habite dans une résidence qui s'appelle Bellevue. Le nom aussi était intéressant.
Et qui tombe en ruine, on peut le dire. L'ascenseur ne fonctionne pas. C'est un peu la France de ceux qui se lèvent tôt que pour aller chez Pôle emploi.
Oui, encore une fois, c'est aussi un rêve déchu. C'est-à-dire que c'est une résidence qui date... sans doute, il y a bien une résidence à cet endroit-là, à Cerbère, je ne sais pas. Plus à quelle époque elle a été construite, mais en tout cas, ce que décrit Nour, c'est une résidence construite dans les années 70, qui a dû être agréable à un moment donné, mais qui est un peu où tout a été construit en série, tout a été décliné, et donc elle dit de ce lieu qu'il est personnalisable en surface, mais indépassable en profondeur. Et donc, effectivement, c'est un endroit... Je pense pas particulièrement que la sociologie soit aussi claire dans la réalité, et elle n'est pas forcément dans le livre. Simplement, ce qui est déterminant chez Nour, c'est l'absence de perspective. C'est-à-dire que la petitesse du territoire et le fait qu'elle est totalement démunie par rapport à son futur, elle a pas fait d'études. Voilà, elle est à mi-temps au McDrive.
Et cette mi-temps va bientôt prendre fin. Ouais. Et puis, surtout, elle s'adonne au plaisir solitaire qu'elle peut même pas pratiquer chez elle et qu'elle est obligée d'aller ailleurs dans ce bunker où elle va trouver ce revolver. Et à partir de ce revolver, vous installez dès le début de votre roman ce ressort de dramaturgie. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce revolver? On est tout de suite dans cette ambiance camusienne, même s'il s'agit des temps modernes, même s'il s'agit de 2018, le soleil est là, il est très très présent, il renvoie bien sûr à l'étranger de Camus elle-même. C'est une référence sans doute à Meursault.
Oui, c'est pas du tout une référence consciente au départ. Maintenant, Camus est vraiment la figure de l'écrivain qui m'a le plus guidée, je pense, enfant, adolescente, dans ma vie, etc. Donc, la référence, elle est forcément là. Mais en revanche, c'était pas du tout une référence d'écriture. Je me suis pas du tout référée à l'étranger. Mais les éléments qui guident l'écriture de Camus, qui sont présents dans sa langue, sont des éléments qui, moi, me guident aussi. C'est-à-dire, effectivement, ce soleil qui est à la fois un élément de beauté, mais qui aveugle la narratrice au fur et à mesure, cette chaleur suffocante, sont des éléments qui vont au fur et à mesure aggraver son état de sidération, de colère, et qui vont motiver aussi sa trajectoire.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Onanisme, c'est le titre de votre roman, Justine Beau. Mais alors, il n'y a aucun extrait dans votre livre qui renverrait plutôt à la sensualité, à la sexualité, au tabou. Toutes ces scènes où elle s'adonne justement à ce plaisir solitaire, votre héroïne, Nour, ne font qu'accentuer le caractère solitaire de cette jeune fille.
Oui, en fait, l'un des éléments qui est vraiment important chez Nour, c'est son silence. Et c'est aussi en cela qu'elle est seule. C'est-à-dire que elle ne parvient pas à inscrire sa parole dans le monde. Elle ne parvient pas à communiquer avec les autres. Elle ne comprend pas vraiment les mots des autres. Et elle laisse les mots des autres la recouvrir. Donc, elle a aucun lien avec les autres. Et elle ne veut pas vraiment exister. Donc, elle se réfugie dans des lieux où elle est sûre de ne pas être découverte. Au fur et à mesure du livre, en fait, elle va être de plus en plus interrompue. C'est-à-dire que même les soupapes de sécurité qu'elle arrive à se créer ne tiennent plus. Et effectivement, elle n'a pas vraiment de lien charnel avec les autres. Cet onanisme, cette masturbation, c'est une mécanique de la chute en avant. Et c'est un mouvement de ressassement permanent.
La vie nous habitue à la peur de l'habitude. On l'appréhende avec angoisse, on l'avorte avant qu'elle n'advienne, créant les conditions d'un ressassement qui devient l'habitude même. La vie est une masturbation perpétuelle. Onanisme des malheurs et des mémoires, onanisme du dégoût que l'on traîne avec soi comme une malle dont on ignore le contenu. Cet extrait d'onanisme de mon invité ce matin, Justine Beau.
Oh,
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Justine Beau, à l'occasion de la sortie chez Grasset de son cinquième et dernier roman, Onanisme. Et là, on vient d'écouter Chibop. Déjà en 1983, les filles parlaient justement de l'onanisme à leur manière. Sidney Lauper, vous connaissiez ?
Oui, je connaissais. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson. Ça me fait plaisir de l'entendre aujourd'hui.
C'est un roman social. Vous avez l'impression d'avoir écrit volontairement un roman social parce qu'il y a quand même toute cette description de la famille de Nour, des voisins de Nour, de son travail, de ceux qui auraient pu être ses amis, de sa colère froide. J'ai pas envie de raconter comment se termine ce livre, mais disons qu'il se termine dans une dramaturgie qui nous rappelle l'actualité de ces dernières années en France. Mais il y a aussi, à travers la voix de votre héroïne Nour, on a l'impression d'entendre la vôtre de voix, Justine Beau, quand il s'agit de décrire la société d'aujourd'hui.
Je sais pas si le projet en lui-même était d'écrire un roman social, c'était un peu plus à la fois un peu plus diffus et un peu plus précis que ça, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse en général, ce sont les lignes de fracture, les failles et ce qui m'intéressait chez Nour, c'était le fait qu'elle était un tout petit peu en marge, pas au sens de la marginalité organisée, etc. Mais elle, c'est quelqu'un qui, encore une fois, ne comprend pas en fait le monde dans lequel elle vit. Et elle a la sensation, voilà, de voir une bande sonore se dérouler autour d'elle sans qu'elle puisse en comprendre le sens et le rythme. Et effectivement, dans ce cadre-là, je trouvais ça impensable en fait de parler d'un autre endroit de la société que celui-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'écriture, j'avais sorti un roman pas très longtemps avant. Je me suis trouvée dans une situation où je trouvais ça impossible, en fait, de pas parler d'argent, de pas parler de l'absence de perspective, de pas parler du fait de se trouver à un endroit et de ne pas pouvoir en sortir. Et c'est vraiment venu d'un essoufflement total, en fait, de pas trouver d'autre endroit d'écriture que celui-là.
Votre précédent roman, c'était « Si nous ne brûlons pas ». Vous étiez venu nous en parler, puisque votre roman est sorti l'année dernière aux éditions des Équateurs. C'était un coup de gueule. Là, il y a une histoire bien structurée, ce qui n'empêche pas la dimension sociale d'être très présente du début jusqu'à la fin.
Oui, en fait, le personnage est dans une extra lucidité sur tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est vrai que le livre s'inscrit dans la lignée de « Si nous ne brûlons pas ». Dans le propos, moi, je j'arrive pas à faire le deuil de mes colères, en fait. Donc, il m'est aujourd'hui impossible de ne pas essayer de raconter l'hébétude d'un personnage qui est choqué par les relations de domination qu'elle voit autour d'elle et auxquelles elle-même est soumise, la violence des genres qui est, pour moi, aujourd'hui, insoutenable, une violence aussi raciste, sociale, politique, qui s'exprime dans le livre. Et là où il y a quelque chose de différent, effectivement, avec le livre précédent, c'est que celui-ci a beaucoup plus la structure d'une tragédie. Il est beaucoup plus ramassé, c'est un huis clos, c'est sans doute plus nerveux aussi. Et surtout, il y a de l'oralité. Et ça, c'était la grande inquiétude littéraire que j'avais aussi en l'écrivant, c'est-à-dire que c'est la première fois que vraiment les mots des personnages interviennent dans le récit. Et ces mots des personnages, ils interviennent dans le récit parce que Nour ne cesse d'ausculter le langage des autres. Et ce langage, c'est un langage où on trouve toutes ces petites choses qui font de la violence du quotidien.
Par exemple, ça, et j'aime beaucoup cet extrait. Acheter deux trucs pour le prix d'un. Se fondre d'un bidule en solde. Fantasmer le caractère bon marché de quelque chose parce qu'il est à 14,99€ au lieu de 15. Imaginer un futur meilleur rendu possible par la grâce d'une galerie marchande généreuse. Le prix est territoire. L'objet ne coûte plus une somme. Il est à une somme. À 5, 10, 15, 20€. Il est à 30 balles comme un tel est à New York, à 50 boules, comme le rendez-vous est à 20h. Le prix est à la fois espace et temps. Le prix, omnisciente horloge, délimitant nos pas et nos désirs d'aller ou de ne pas aller, englobe toutes nos vies. Nous avons été dévorés par le prix.
En fait, et ça répond aussi à votre question précédente, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'espace intime est totalement enserré par les dimensions politique, économique de nos vies. Et Nour, comme justement elle a pas d'argent et que elle est sans cesse dans le décompte des quelques économies qui lui restent, et ben elle décortique tous les petits endroits où ce capitalisme la ronge, en fait. Capitalisme ou pouvoir de l'argent, enfin c'est même au-delà de simplement ce système économique là. Et donc elle se rend compte qu'elle est totalement cernée, et ça intervient aussi par toutes les personnes qui sont autour d'elle, tous les amis de son père qui vont intervenir dans le processus des funérailles et qui vont faire montre en fait d'un racisme absolument inouï sans s'en rendre compte.
Et terriblement ordinaire d'ailleurs.
Et terriblement ordinaire parce que c'est dans des petits mots.
Le plus raciste peut s'avérer être un bon type par ailleurs.
Oui, totalement. C'est-à-dire que ça intervient dans des virgules, dans des intonations, dans des petites manières d'appuyer certains mots, dans les sujets de conversation qu'on va choisir quand on voit telle ou telle personne entrer dans la pièce. Et Nour, c'est aussi quelqu'un à qui on répète au fur et à mesure du livre « ma petite fille, t'es une petite innocente ». C'est-à-dire on ne cesse de l'infantiliser, de la diminuer.
Vous l'avez appelé Nour, en arabe ça veut dire lumière, parce que Vous saviez que le sujet, que le roman allait être noir, sombre, et qu'on allait raccrocher à cette actualité terrible que sont les attentats djihadistes.
On peut tout à fait dire tout ça. Me connaissant un tout petit peu, j'avais du mal à imaginer que le livre serait autre que noir.
Et comment on ressort de cette expérience, de ce livre, Onanisme, Justine Beau?
C'est très particulier parce que je l'ai écrit en très peu de temps, donc je pense pas en avoir totalement terminé avec ce texte. En tout cas, je trouve que j'ai l'impression que ça m'a ouvert d'autres perspectives d'écriture, donc j'ai envie de poursuivre cette expérience-là, quoi.
Pour notre plus grand plaisir, merci d'être passée ce matin, Justine Beau. Merci. Onanisme est édité chez Grasset.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Bonne journée, à demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la première nuit de la pop culture.
Jeudi 19 septembre, de 21h à 5h, France Inter crée l'événement. Concerts, stand-up, performances, séries, expos, BD.
Avec Métronomie en live exclusif, Alexandre Astier, Jean-Paul Gaultier, José Garcia, Pénélope Bagieu et Pedro Winter dans le Pop-Up Club.
La nuit de la pop culture, c'est ce jeudi à partir de 21h en direct sur France Inter et les réseaux sociaux.
France Inter, une radio de Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain. La date vient d'être fixée, mais la contestation populaire l'acceptera-t-elle? Nous poserons la question à un sociologue militant sur place. Nous irons ensuite en Israël, où là, les législatives seront organisées demain. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a organisé son dernier conseil des ministres dans une colonie en Cisjordanie. Et puis, quelle mobilisation contre la réforme des retraites? Les professions libérales sont appelées à manifester aujourd'hui en France. Un médecin nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Le chef d'état-major algérien Ahmed Gaïd Salah en avait fait son objectif ces dernières semaines. Il n'y a à ses yeux pas d'autre solution de sortie de crise que la tenue rapide d'une élection présidentielle en Algérie. Eh bien, hier soir, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a donc formalisé cette demande. Le corps électoral est convoqué le 12 décembre prochain. Mais l'opposition populaire en Algérie qui manifestait vendredi encore pour la 30e semaine consécutive, l'opposition n'est pas convaincue. C'est trop tôt le 12 décembre, voilà ce que dit notamment Nasser Djabi, il est sociologue et fait partie du mouvement de contestation.
Ça va être très difficile. Je crois que le temps alloué à cette organisation, c'est-à-dire 3 mois, n'est pas suffisant pour travailler sur les listes électorales, faire le nécessaire pour une bonne organisation des élections. Il y a aussi l'aspect politique. Les Algériens, au sein du Hirak, ont demandé des mesures d'apaisement, c'est-à-dire la libération des détenus, l'ouverture des médias. Ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations de jeunes qui étaient dans le Hirak. Donc, ni les conditions administratives et organisationnelles, ni les conditions politiques ne sont réunies pour une bonne organisation des élections présidentielles. C'est-à-dire que les Algériens ne sont pas tout à fait d'accord pour organiser dans cette précipitation des élections de ce genre qui veulent être un moment qualitatif pour couper avec le système. C'est des élections décisives pour le futur politique de l'Algérie. Donc moi je crois qu'il faut attendre collectivement la position des Algériens le vendredi prochain.
Voilà, c'était Nasser Djabi, sociologue algérien, interrogé pour France Culture par Nabila Hamel. En Tunisie, la présidentielle avait lieu hier pour désigner le successeur au président Essebsi, décédé en juillet dernier. Les résultats de cette présidentielle ne seront connus que demain mardi. Mais 2 candidats hors système revendiquent déjà leur qualification pour le second tour. Il s'agit de l'universitaire Kaïs Saïd et du magnat des médias Nabil Karoui qui est incarcéré depuis 3 semaines pour blanchiment et fraude fiscale. Le second tour de cette présidentielle tunisienne est prévu le 13 octobre. Élection toujours en Israël maintenant. Des législatives vont s'y dérouler demain après l'impossibilité en avril dernier de former un gouvernement de coalition. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, retente donc, lui qui est au pouvoir, rappelons-le, entre 96 et 99, puis sans interruption depuis 2009, soit depuis 10 ans, menacé actuellement par la coalition centriste bleu-blanc de Benny Gantz. Benjamin Netanyahou est plus que jamais en campagne pour convaincre la droite, ainsi que la droite de la droite. Il a même hier délocalisé le Conseil des ministres dans une colonie en Cisjordanie, Frédéric Mettezo.
Benjamin Netanyahou a le sens du décor. Habituellement, le Conseil des ministres se déroule à Jérusalem, mais hier matin, il était délocalisé dans une colonie en Cisjordanie, dans cette vallée du Jourdain qu'il promet d'annexer rapidement s'il est réélu, et il y a donc annoncé la légalisation d'une colonie près de Jéricho, contre l'avis du conseiller juridique du gouvernement. La décision finale reviendra au prochain gouvernement, et voilà comment Benjamin Netanyahou espère convaincre les colons de voter pour lui. De retour à Jérusalem, il a prononcé un discours dans une salle du Parlement pour dénoncer la fraude électorale dans les villes arabes lors des dernières élections. « Ne vous faites pas voler le scrutin », a-t-il dit la voix forte en tapant du poing sur la table et en fustigeant la commission électorale. Sa stratégie est claire, siphonner les partis les plus à droite pour que le Likoud débouche en tête demain et qu'il soit chargé de constituer la prochaine coalition. La stratégie de son rival centriste Benny Gantz est tout aussi claire. Hier soir, il donnait un meeting à Tel Aviv, la grande ville de Gaulle. gauche. Il insiste sur ses 38 ans passés dans l'armée et ses compétences en matière de sécurité. Il se pose en anti-Netanyahou qui maltraiterait les institutions de l'État et il s'adresse à un électorat plus libéral et laïque. Il promet le mariage civil et les transports publics le jour de Shabbat.
Voilà pour les promesses de chacun avant ces nouvelles législatives. Elles auront donc lieu demain en Israël. La production de pétrole saoudienne est réduite de moitié après des attaques de drones avant-hier contre deux installations stratégiques de la compagnie Aramco. Attaque en Arabie Saoudite revendiquée par les rebelles yéménites houthis, mais Washington n'y croit pas et accuse déjà l'Iran. Les États-Unis sont prêts à riposter, voilà ce que dit le président américain Donald Trump, alors que les prix du pétrole grimpaient cette nuit de plus de 10%. À 6 semaines du divorce annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Boris Johnson va déjeuner aujourd'hui avec des négociateurs européens au Luxembourg. Des négociateurs très réservés sur les annonces du Premier ministre britannique. Il y a, disent-ils, peu de chances d'aboutir à un accord ces prochaines semaines. Et Boris Johnson a demandé à rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, aujourd'hui. Les promesses de dialogue et d'écoute du gouvernement français n'y changent rien. La mobilisation s'organise contre la réforme des retraites. Après les salariés de la RATP à Paris vendredi, ce sont les professions libérales qui vont manifester aujourd'hui. Les avocats, les infirmières, les pilotes de ligne veulent défendre leurs caisses de retraite autonomes qui sont la plupart du temps excédentaires. Jean-Paul Hamon préside la Fédération des médecins de France. Il s'oppose donc au régime universel souhaité par le gouvernement.
Mais c'est carrément un hold-up. On a accepté que nos cotisations augmentent. Les médecins payent plus de 30% de cotisations alors que les autres professions payent à peu près 20%. Et là, alors qu'on a constitué 7 milliards de réserves, on s'apprête à nous les piquer purement et simplement. C'est tout simplement inadmissible. Tous ces gens-là, si vous voulez, ce sont des gens qui ont cotisé pour leur retraite. C'est de l'argent qu'ils ont économisé. Et là, vraiment, clairement, l'État, en disant « vos cotisations désormais vont être prélevées par l'URSSAF », on est en train de nous piquer l'argent dans notre poche. Et il faudrait qu'on ne dise rien. Déjà, la France est confrontée à un problème de désertification médicale. On voit que les patients ont de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant. Et là, après la réforme des urgences, qui est une catastrophe, on est en train de piquer l'argent des médecins. Mais quel étudiant va vouloir s'installer en médecin libéral avec des projets pareils? On est en train de désertifier la France. On est en train de décourager des gens qui sont au contact de la population. Et je pense que les Français vont pas tarder à le comprendre.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. Annabelle que nous retrouverons tout au long des rendez-vous d'information aujourd'hui à travers des portraits d'infirmières, d'avocats, de stewards, tous mobilisés aujourd'hui pour leur retraite. Eux se mobilisent pour conserver leurs emplois. Les agents des finances publiques font grève ce lundi. Des rassemblements auront lieu un peu partout en France. Après la confirmation de Bercy, 5800 postes de fonctionnaires y seront bien supprimés d'ici 2022. Marine Le Pen ne donne pas d'objectifs chiffrés en vue des élections municipales du printemps prochain. L'ambition toutefois avec le Rassemblement National garde les 11 communes de taille supérieure à 15 000 habitants comme Hénin-Beaumont, Hayange ou Fréjus. Il s'agit aussi d'élargir en partant de ces bastions. C'est ce que le RN, le Rassemblement National, appelle la stratégie de l'inondation. Une stratégie bien intégrée par Arnaud de Rigny. À 23 ans, ce fonctionnaire se présente à Carvin, une commune de 15 000 habitants dans le bastion minier des Hauts-de-France.
C'est vrai que la gestion municipale des Hénin-Beaumont montre que dans les mairies Rassemblement National, eh bien, on est capable de faire quelque chose qui permet vraiment de coller à ce que voulaient les habitants. Donc c'est vrai que c'est important parce que ça montre aussi que le bilan est extrêmement positif. Comme vous le dites, effectivement, Hénin-Beaumont, c'est juste à côté. Je pense que les habitants de Carvin voient aussi que pas très loin, eh bien, le Rassemblement National peut réussir. Et vous parlez de stratégie de l'inondation, mais c'est vrai que nous avons déjà un potentiel électoral qui est important, d'une part. Et deuxièmement, nous avons un maire qui est là depuis 3 mandats et qui voudrait faire un 4e mandat. Et nous considérons, nous, que c'est le mandat de trop. Voilà.
Voilà, un militant rencontré à Fréjus lors d'un rassemblement du Rassemblement National. Il était au micro d'Anne Fauquemberg. Notons enfin cette journée importante pour Aigle Azur et ses 1150 salariés. Ce lundi, le tribunal de commerce d'Evry va étudier le dossier des offres de reprise pour la compagnie aérienne française. Et selon le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebari, 2 projets de reprise bénéficient d'une attention particulière. Il y a d'abord une offre combinée d'Air France et du groupe Dubreuil qui détient Air Caraïbes. Et puis une autre offre d'un transporteur étranger, a priori britannique. Le secrétaire d'État français souhaite qu'au moins 90% des emplois puissent être sauvés. Aigle Azur emploie actuellement 1150 salariés.
Ce lundi sera globalement estival, malgré quelques nuages près de la Manche et sur les Pyrénées. Très vite dans la journée, le soleil et la chaleur vont s'imposer. Ce matin, comptez 16 degrés à Brest, 19 à Lille, 20 degrés à Paris, 23 à Besançon, 25 degrés dans la matinée à Bordeaux, Lyon et Nice. Et puis cet après-midi, il fera entre 23 et 32 degrés. La sécheresse pendant ce temps est toujours d'actualité. Aujourd'hui, 85 départements sont encore concernés par des mesures de restriction d'eau. 48 d'entre eux sont en situation de crise, selon Météo France. Il est lundi, nous sommes lundi, il est 6h40 pile. Jacques Munier, on reprend les bonnes habitudes. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées sur France Culture et vous vous penchez ce matin, Jacques, sur la référence à l'héritage du siècle des Lumières qui revient en force sur la scène intellectuelle, médiatique et politique. Pourtant, y a-t-il, Jacques, une unité dans cet ensemble de penseurs, si ce n'est une défense commune de la raison ?
Oui, bonne question, Clara. Et d'abord, il aura fallu plus d'un siècle pour que les Lumières deviennent une catégorie historiographique. C'est ce que rappelle Antoine Lilti dans un ouvrage très documenté, publié en coédition EHESS et Gallimard Seuil, sous le titre « L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité ». Le terme lui-même est très disputé, on parle des Lumières écossaises, mais aussi anglaises, conservatrices, ou encore allemandes, savantes et religieuses, à ne pas confondre avec l'Aufklärung, espagnol, lusophone, etc. Maïmonide est à bon droit considéré comme le représentant des Lumières juives du Moyen-Âge et Averroès, celui des Lumières arabes du XVIIe siècle. Par ailleurs, la recherche a mis en valeur la présence de l'ésotérisme et de l'hermétisme, voire de l'irrationnel au cœur des Lumières. Sur les droits de l'homme et l'universalisme du genre humain, on a montré que l'anthropologie des Lumières pouvait être entachée de racisme et que les droits des femmes n'y étaient pas reconnus. Sans compter la mise en cause de l'humanisme universaliste par les études post-coloniales. L'image traditionnelle, celle d'un petit groupe de philosophes parisiens maniant l'ironie et l'esprit critique contre l'intolérance religieuse et l'absolutisme, a volé en éclats, écrit Antoine Lilti. Mais on voit bien le sens d'une telle référence aujourd'hui. Nos sociétés, écrit-il, qui se croyaient sécularisées, ont assisté effaré au retour en force de la religion, jusque sous ses formes les plus intolérantes et violentes. Les droites extrêmes, nationalistes et xénophobes sont redevenues des forces politiques importantes, même dans les bastions historiques de la démocratie libérale. Après une période, dans les années 1970, où divers courants de la pensée critique ont dénoncé les compromissions de l'universalisme éclairé avec l'impérialisme occidental, les périls de la science et les faux-semblants du progrès, l'heure est donc à la revendication de l'héritage des Lumières, sans nuance et sans égard pour leur diversité. C'est pourquoi l'historien des idées a entrepris cette mise au point détaillée et suggère cette définition. Les Lumières, par construction, sont un concept philosophique et politique, la façon dont nous désignons le récit des origines de la modernité européenne en l'inscrivant dans les transformations culturelles du XVIIIe siècle et non pas seulement un credo rationaliste universel, mais l'intuition inaugurale d'un rapport critique d'une société à elle-même. Pour célébrer son 100e numéro, le mensuel Books, l'actualité à la lumière des livres, est entièrement consacré au bon usage de l'esprit critique. Car il y a aussi de mauvais usages de l'esprit critique, le complotisme ou le recours aux dénommés faits alternatifs contre les vérités communément admises, le doute instillé sur les résultats de la recherche scientifique concernant le réchauffement climatique ou les perturbateurs endocriniens. Hervé Lebras évoque même une éclipse de la raison, accentuée en particulier par la dégradation des éléments constitutifs du langage, à savoir les mots et leurs articulations. Le démographe et historien rappelle que le mot « peuple », par exemple, est l'objet de toutes les manipulations, alors qu'il avait un sens précis chez les anciens Grecs qui disposaient de plusieurs termes pour le fixer, comme « ethnos »,« demos » ou « genos ». Maintenant, Maintenant, n'importe quel, dit-il, Lebras, Hervé Lebras, n'importe quel groupuscule ou attroupement affirme qu'il est le peuple. Le parti au pouvoir en Pologne s'appelle Droit et Justice, mais il viole le droit en supprimant l'indépendance de la justice. Les atteintes à l'usage critique de la raison et du langage consistent souvent à les rabaisser au rang d'opinion, d'où la prolifération des faits alternatifs et des fake news. Décentrer le regard est aussi une façon d'exercer son esprit critique. Et pour revenir à l'esprit des Lumières, l'historien de l'Inde, William Dalrymple, rend compte du livre d'Amartya Sen, L'Inde, Histoire, Culture et Identité, dans la New York Review of Books. Le raisonnement critique n'est pas né qu'en Occident, souligne-t-il. Le souverain moghol Akbar contribua à l'essor du débat et du dialogue interreligieux dans l'Inde du XVIe siècle. Akbar conviait dans sa ville des saints hommes de toutes les régions de l'Inde afin qu'ils exposent leur doctrine métaphysique. Des penseurs musulmans, sunnites, chiites et soufis, et hindous, shivaïtes et vishnouites, mais aussi des chrétiens, des juifs et des parsis zoroastriens s'y retrouvaient pour débattre de leurs divergences et réfléchir aux moyens de vivre ensemble. Les athées étaient également représentés. À l'époque où les Européens envoyaient les hérétiques au bûcher, Akbar prescrivait qu'aucun homme ne soit inquiété pour des motifs religieux. Aujourd'hui, avec le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi, l'Inde prend le chemin inverse. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le FMI et la crise en Argentine.
Oui, le Fonds monétaire international a-t-il changé? Il lui est bien arrivé de reconnaître des erreurs, celle par exemple d'avoir refusé à la Grèce de renégocier sa dette en 2010 et de lui avoir administré dans l'urgence et sans l'avoir tellement réfléchi avant une véritable purge d'austérité en échange d'un prêt de 30 milliards d'euros complété par les États européens. En 2019, c'est l'Argentine qui replonge dans la crise malgré un prêt l'année dernière de 57 milliards d'euros, le plus gros prêt que le FMI ait jamais accordé dans son histoire depuis 1944. Quelle est la part de responsabilité de l'Organisation financière internationale? A-t-elle cherché à s'adapter depuis le temps qu'elle le connaît, ce dossier argentin? Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice adjointe du CEPI, qui est donc un centre d'études et de recherche en économie internationale. Quand Christine Lagarde, qui quitte ses fonctions de directeur général du FMI dans quelques semaines, reconnaît avoir sous-estimé la situation extrêmement compliquée, je la cite, de l'Argentine. Elle est compliquée en quoi, cette situation argentine, en quoi elle l'est davantage que la situation grecque, équatorienne ou encore togolaise?
Finalement, c'est une façon assez diplomatique de dire que l'Argentine est proche d'une situation insoutenable où les investisseurs vont refuser de prêter à l'Argentine pour qu'elle rembourse ses dettes. En fait, comme vous le disiez, le Fonds monétaire international, il y a un an, a consenti le prêt le plus important de son histoire. Des réformes ont été mises en place. Le déficit budgétaire, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes de l'État, le déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, tout ça s'est amélioré. Et pourtant, la situation politique s'est dégradée au printemps environ, et là très récemment, et donc les capitaux sortent et le peso plonge. Et en fait, quel est le problème avec le fait, le peso, c'est la monnaie argentine. Le gros problème, c'est que la dette extérieure argentine est essentiellement dénominée en peso, ce qui veut dire que quand le peso perd de sa valeur, l'Argentine doit dégager encore plus de revenus pour rembourser ses créanciers.
Bah, toujours le dollar au centre, c'est parce que le peso s'effondre par rapport au dollar que la dette n'est plus soutenable.
Oui, c'est le problème du péché originel, mais pas simplement de l'Argentine, hein, de beaucoup de pays émergents qui empruntent en dollars parce que les investisseurs leur prêtent dans une monnaie dans laquelle ils ont confiance, qui n'est pas volatile comme comme le peso. Là.
Alors, parmi les mesures prescrites par le FMI, comme à chaque fois, d'ailleurs, que le FMI vient en aide à un pays, lui prescrit cette ordonnance du consensus dit de Washington. Dans le cas de l'Argentine, il a fallu arrêter de subventionner l'énergie, l'eau ou les transports qui perturbaient, disait le FMI, le bon fonctionnement de l'économie. Bon, pour certaines familles, c'était le seul moyen d'avoir accès à ces services. Il a obligé l'Argentine à emprunter sur les marchés internationaux pour financer le déficit public, ce qui a augmenté, vous le disiez, son endettement en dollars. Depuis le temps que le FMI connaît le dossier argentin, qui a déjà fait l'Argentine 8 défauts de paiement, qui a appelé 21 fois le FMI à l'aide, est-ce que le FMI a ne serait-ce que cherché à adapter un peu ses recettes, à reconsidérer de temps en temps ses prescriptions à l'aune de la situation et notamment sociale?
Alors, vraiment, je crois que c'est important de comprendre que le consensus de Washington a été extrêmement critiqué, notamment par Joe Stiglitz, hein, qui a reçu le prix Nobel en 2001, et qui était l'ancien chef économiste de la Banque mondiale. Il a énormément critiqué le consensus de Washington. Pourquoi Washington? Parce que les deux institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, sont à Washington. Et ça, ça fait presque 20 ans en fait que ces critiques ont été formulées et finalement, il y a quand même quelques réformes qui ont été mises en place au fond comme à la banque. Quelles étaient les critiques essentielles? On les connaît tous, hein. Le FMI met en place des politiques néolibérales extrêmement difficiles, c'est-à-dire prône l'austérité avec un coût social désastreux et ça n'est pas efficace. La deuxième critique qui a été formulée, c'est que c'est une perte de souveraineté en fait de la part des gouvernements. C'est-à-dire que vous aviez la mission du FMI qui arrive en général pour 15 jours ou 3 semaines et qui va imposer des conditionnalités très fortes au gouvernement, les fameux plans d'ajustement structurel qui donnent très peu de place et de négociation avec les gouvernements.
Et aujourd'hui, il y a des voix discordantes au sein du FMI pour remettre ça en cause?
Alors, en fait, ça doit faire une quinzaine d'années que ces voix ont pris de l'importance. Et là, ce qui est frappant avec l'Argentine aujourd'hui, c'est que, autant, je pense que le FMI a encore des réformes très importantes à faire, et vous l'avez dit, l'austérité est encore une recette. Mais là, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu un vrai dialogue avec le gouvernement et même l'opposition, même Kirchner ne critique pas l'intervention du FMI et dit, en tout cas, cette opposition dit qu'ils maintiendront le dialogue avec le FMI s'ils gagnent.
Voilà, Alberto Fernandez notamment qui a remporté la primaire et donc qui est pressenti pour être le prochain président argentin. Alberto Fernandez étant de gauche, alors que son Mauricio Macri, qui est toujours aujourd'hui au pouvoir, est un libéral qui a de très bons rapports avec Donald Trump. Qu'est-ce que les États-Unis attendent de l'Argentine? On sait combien les États-Unis pèsent aujourd'hui dans les décisions du FMI. Qu'est-ce que les États-Unis attendent de l'Argentine pour lui avoir accordé un tel prêt, 57 milliards de dollars encore une fois l'année dernière, sans vote du Parlement argentin d'ailleurs?
Alors, vous mettez en évidence les États-Unis comme si les États-Unis étaient le seul décisionnaire au FMI. Certes, il faudrait être naïf pour ne pas avoir en tête qu'effectivement c'est le premier actionnaire du fonds, c'est-à-dire qu'il a le droit de vote le plus important, c'est le plus gros contributeur et en plus le fonds est à Washington. Donc évidemment c'est un instrument d'influence. Mais attention, il y a une gouvernance quand même au FMI et ça n'est pas les États-Unis qui décident ou pas de prêter. Maintenant c'est vrai qu'ils ont un droit de veto donc il faut l'avoir en tête.
Par exemple, Anne-Laure Delatte, est-ce qu'il a été outrancier de dire en avril, quand le FMI a accordé à l'Équateur cette fois un prêt de 4 milliards et 2 millions de dollars, c'était en mars, est-ce qu'il est outrancier de faire un lien avec le fait que l'Équateur a fait arrêter Julian Assange à l'ambassade équatorienne de Londres un mois plus tard?
Il faudrait être naïf pour ne pas prendre en compte l'économie politique de ces grandes institutions. C'est-à-dire que les États-Unis sont un gros contributeur et le fonds est un instrument d'influence. Il y a une dimension géopolitique, certes. Maintenant, comment je peux vous répondre à ça si on n'a pas de transparence? C'est-à-dire que Ce qui est important, et une des réformes qui n'a pas été mise en place au FMI, à mon avis, c'est que on n'a pas suffisamment de transparence sur les décisions qui sont prises et les processus de décision pour être capable de juger et de répondre à la question précise que vous avez posée.
Alors, au-delà de la transparence sur les remèdes, en 2013, l'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, avait reconnu que le FMI avait fait des erreurs dans la gestion de la crise grecque. Donc, sur quelles erreurs a-t-il travaillé depuis et sur lesquelles a-t-il essayé de remédier ?
Alors, premièrement, je vous disais au départ que la critique sur les politiques néolibérales, la perte de souveraineté, ça, le FMI a travaillé dessus. On est plus en dialogue aujourd'hui. Et par exemple, en Argentine, les dépenses sociales, certaines dépenses sociales sont isolées en fait des politiques d'austérité. C'est-à-dire que on a demandé à l'Argentine de dépenser plus d'1% de son PIB, de continuer à dépenser plus d'1% de son PIB pour des dépenses sociales afin de protéger les populations les plus fragiles.
Et ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. Si vous voulez, le Fonds monétaire est conscient, de toute façon, une politique qui est impopulaire ne fonctionnera pas. Parce que une politique impopulaire va déstabiliser la situation politique dans le pays. Et ça, c'est un facteur que les investisseurs détestent. Ils détestent l'instabilité politique. Donc, d'une certaine façon, si on veut être sarcastique, je crois que le FMI a intégré dans son logiciel depuis une vingtaine d'années que le coût social a un coût politique et finalement un coût financier. Maintenant, sur la Grèce, effectivement, Blanchard avait admis que le FMI est arrivé trop tard et trop peu, c'est-à-dire qu'on a prêté trop peu et trop tard à la Grèce, qu'on a mis en place des politiques extrêmement difficiles, mais là, je crois qu'il faut vraiment admettre la responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont nous, les Européens.
C'est les pays créanciers qui n'ont pas voulu redécouvrir la dette.
Oui. Donc là, je pense qu'on peut. Il y a énormément de choses à faire, et notamment cette transparence et cette gouvernance au FMI, qu'il est essentiel de faire évoluer pour que la société civile ait un œil sur cette dimension géopolitique, sur la zone d'influence que le FMI peut exercer. Mais sur la Grèce, je pense qu'on
C'est différent. Anne-Laure Delatte, pour conclure, on a vraiment que quelques secondes. En 2017, la Banque Centrale Européenne avait révélé que les sommes prêtées à la Grèce entre 2012 et 2016 lui avaient rapporté 7,8 milliards d'euros d'intérêts. Est-ce que les pays dits actionnaires du FMI gagnent de l'argent sur les prêts accordés à l'Argentine ?
Non, c'est pas. Je pense que c'est pas si simple que ça, et en tout cas, ça n'est pas l'objectif de ces institutions. En fait, l'objectif de ces institutions, c'est de mettre en place une coordination multilatérale. Donc, je crois que c'est ça le grand défi aujourd'hui. Avant de se poser des questions de est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec l'Argentine, finalement, ceux qui gagnent de l'argent avec l'Argentine, ce sont les créanciers privés, hein, pas les gouvernements.
Les banques. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, d'avoir été avec nous. La nouvelle présidente du FMI, Kristalina Georgieva, prendra ses fonctions bientôt et ce sera l'occasion de faire un point sur ses missions et ses dossiers prioritaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à midi, la grande table, Olivia Gesbert.
Nos invités, un cinéaste cinéphile et un critique cinéma pas content. Trop lisse, trop neutre, le cinéma c'était mieux avant. Pour Éric Nehoff, il y a malaise à tous les étages, du financement à l'écran, des acteurs à la critique. Le vrai cinéphile est toujours curieux, semble lui répondre Nicolas Boukrieff. Pour preuve, son nouveau film, 3 jours et 1 vie, adapté du polar de Pierre Lemaitre. Une curiosité coupable pour le coup.
La grande table, ce lundi à midi et sur franceculture.fr.
C'est l'heure de vous retrouver, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à tous.
6h57, c'est votre humeur du jour, vous êtes prévoyant, dites donc. Allez-vous en mettre, Guillaume Erner, des pneus hiver ?
Non, je vous en parle parce que depuis quelques jours, une rumeur, quelque chose qui, comme on dit, agite les réseaux sociaux, évoque les pneus d'hiver. Ils allaient ou ils seraient sur le point de devenir obligatoires du 1er novembre au 31 mars. Un terrible projet dans les tuyaux. En l'absence d'équipements spéciaux, l'automobiliste récoltera recevrait une amende, voire verrait son véhicule immobilisé. Oui, mais voilà, depuis le 17 novembre 2018, tout ce qui touche à la bagnole est devenu absolument sacré et le pneu d'hiver est devenu une sorte de source d'effroi, Julie. Une nouvelle version de Rubber. Vous savez, le film de Quentin Dupieux, lequel mettait en scène un pneu tueur. Rendre les pneus hiver obligatoires et pourquoi pas augmenter le prix du diesel pendant qu'on y est. Voilà pourquoi le gouvernement a immédiatement passé la marche arrière, créant une sorte d'embouteillage où il est difficile de se retrouver. Une simple recherche suffit pour ne plus rien comprendre. Alors certains titres de presse régionale expliquent que les chaînes et les pneus hiver vont bientôt être obligatoires, ce qui, soit dit en passant, n'est pas du tout la même chose. On ne va pas imposer aux automobilistes de rouler en permanence avec des chaînes, tandis que d'autres annoncent que non, les pneus hiver ne vont pas du tout être obligatoire. En réalité, il semblerait que cela dépende de l'endroit. Un texte existe effectivement relatif à la loi montagne, mais pour l'instant, les décrets d'application ne sont pas sortis et on peut dire qu'ils ne sont pas prêts de sortir. Au bout du compte, la montagne accouche d'une souris, ou plus exactement, seule la montagne accouche d'une telle loi, laquelle serait bien inutile puisqu'on imagine qu'en zone montagneuse, les automobilistes n'attendent pas une loi pour savoir que l'hiver il neige et qu'il faut s'adapter. Mais ce pataquès sur les pneus neige montre que même en montagne, le gouvernement est décidé à ne pas faire de vagues.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, dans le cadre de la loi de bioéthique, nous accueillons un philosophe, Frédéric Worms. Il publie « Pour un humanisme vital » et en sa compagnie, on essaiera d'y voir un peu plus clair sur les questions d'éthique qui agitent aujourd'hui notre société et le débat politique. En attendant, il est 7h sur France Culture.